Isabelle Fontaine, salut!
Salut! Ça va?
Oui, ça va bien. On revient sur le cas du Collège Sacré-Cœur. Fermeture hier, il y a eu conférence de presse. On dit qu'on a tenté de l'annexer à un autre privé. À d'autres privés, ça n'a pas fonctionné. Et il y a un petit bout, il y a un petit bout de citation.
Écoute.
Qui a attiré ton attention?
Qui m'a chatouillé. Qui t'a chatouillé aussi, je pense.
Oui.
Je l'ai entendu plus tôt ce matin. En fait,
oui.
Tu sais, puis il faut exprimer d'abord toute notre empathie pour les élèves qui se retrouvent comme ça en milieu d'année, apprenant qu'ils pourront pas poursuivre leur secondaire dans leur école. Pour toutes les familles qui se retrouvent avec cette difficulté-là, on sait que d'un point de vue individuel, pour un enfant, de changer de milieu, alors que c'est pas un choix, c'est pas toujours une décision facile, puis ça peut. Ça amène du stress qui n'est pas nécessairement nécessaire, mais en même temps, quand le président du conseil d'administration disait là, hier que c'était qu'il y avait une injustice là, entre le système public et le système privé, parce que le système privé assumait une partie des coûts, hey, j'ai sourcillé, mettons, tu sais. Au Québec, on a un système public qui est ouvert à tous, dont la responsabilité est de donner des services en éducation à tous les enfants du Québec, et un système privé qui est subventionné à 60 % par de l'argent public, mais qui exige une petite contribution des familles et qui permet une offre un peu différente à des familles qui en ont besoin. Mais la première injustice, là, elle est d'abord envers les élèves qui n'ont pas accès à cette offre d'école pas si privée, parce que leurs parents n'en ont pas les moyens. On a beau dire que la contribution n'est pas si élevée, il y aura toujours une part des familles qui ne seront pas capables d'assumer le fameux 40 % qui n'est pas assumé par le public. Puis tu sais, pendant des années, c'est le réseau public qui a souffert de cette injustice-là, qui a souffert d'une compétition un peu malsaine qui permettait au privé de drainer des élèves, souvent sélectionnés, laissant les élèves avec des difficultés ou plus de problématiques dans le réseau public. Bon, faut reconnaître que le privé a fait des efforts pour améliorer la mixité dans ses écoles, mais quand même, ça demeure. Qui draine aussi des ressources financières de familles qui sont plus fortunées, au détriment de familles qui ne le sont pas et qui n'ont pas accès à cette offre-là ou à cette diversité d'offres. Puis qui draine aussi des parents puis des familles. Quand généralement, ils ont plus de moyens, ces parents-là, mais ils sont plus impliqués, sont mieux outillés pour soutenir leurs enfants avec des problématiques. Donc, ça laisse des enfants dans le réseau privé avec un meilleur contexte pour réussir que ceux qui se retrouvent dans le milieu public et qui n'ont pas accès au réseau privé.
Et entendons-nous, ce matin, on a besoin du réseau privé. C'est pas ça le point. C'est pas du tout ça le point.
On pourrait en faire un débat ici, là, mais
moi,
c'est pas ça le point.
Moi, je pense que oui, en toute franchise. De par l'offre, tu sais, c'est important de donner aux gens une option, une offre, et...
Je suis pas d'accord avec toi.
Non,
d'abord,
parce que si t'enlèves, parce que là, faut pas mélanger les débats, là. Si t'enlèves les deniers publics dans le privé, c'est sain qu'il y a des écoles privées.
Si t'enlèves les deniers publics dans le privé, moi, j'ai pas de problème.
Moi, je pense que la compétition est saine.
Dans la plus grande... Dans la majeure partie des provinces canadiennes, il y a un réseau privé entièrement privé, puis le public ne verse pas un sou. Le problème, c'est que le public, en subventionnant
en grande partie
le réseau privé, crée une compétition et draine des ressources, mais aussi des élèves, puis nuit à la mixité dans nos milieux scolaires.
Parce que demain matin, là, enlève le privé. Puis là, j'exclus la donnée des deniers, OK? On enlève l'argent public, là. Enlève le privé demain matin, là. Je te gage ce que tu veux, qu'on a pas mal moins de concentration sportive ou autre dans les écoles publiques. On s'est forcé le derrière parce qu'on s'est fait chauffer le derrière, justement.
Peut-être. Mais sauf que
t'sais,
en même
ça,
temps...
C'est ça, la compétition, là.
Je suis d'accord avec toi. En même temps, maintenant, on en a créé une entre les écoles publiques, tu sais. Puis le réseau public a mis beaucoup d'efforts pour faire face à ça, pour garder les jeunes dans le réseau, pour avoir une offre diversifiée des programmes, pour mettre en place des contextes d'apprentissage différents qui conviennent à tous les enfants. Puis tu sais, il faut souligner ça, tous les efforts qu'ils ont fait. Puis peut-être que c'était
depuis
en partie...
Depuis 15-20 ans, il y en a beaucoup.
Peut-être que c'était en partie à cause de la compétition qui venait du privé, mais c'est aussi d'abord et avant tout à cause de l'engagement du système public puis des gens qui œuvrent dedans pour les élèves. Puis moi, tu sais, je veux ce matin surtout qu'on retienne de mon propos que je salue ces efforts-là du réseau public pour offrir tous ces contextes-là, puis pour faire en sorte qu'il y ait un contexte adapté au plus grand nombre d'enfants possible, parce que le réseau public, eux autres, ils n'ont pas le luxe de choisir.
Et entendons-nous, c'est pas moi qui vais pleurer sur le réseau privé ce matin, là. Pas du tout. Tout ce que je dis, c'est la compétition, elle fait partie de... Puis la compétition, elle devrait être considéré comme normal pour le privé. C'est ça d'être un privé, c'est d'être
exactement
en compétition tout le temps.
Exactement. Tu sais, moi, quand j'entends on veut avoir plus d'argent public, bien, d'abord, intégrer le réseau public aux mêmes conditions, puis...
C'est quoi
l'intérêt d'avoir un réseau privé s'il devient entièrement public? Il n'y en a aucun. Tu sais, rappelons-nous la genèse du réseau privée, là. C'était à l'époque où nos écoles publiques étaient confessionnelles, catholiques, et il y avait un réseau d'écoles d'autres confessions qui étaient privées, et une façon de lier ça, puis d'avoir un cursus scolaire semblable dans toutes les écoles, une certaine uniformité, c'était de financer en partie les écoles privées. Tu sais, là, en Estrie notamment, on est vraiment loin de là. Ça pue vraiment de rapport.
Et l'affaire aussi, c'est triste, là. On n'est pas en train de célébrer autour de la mort de Sacré-Cœur. On souhaite pas. On souhaite pas qu'il y ait des institutions, peu importe laquelle elle est, qu'elle disparaisse. C'est pas ça. C'est juste que de là à dire qu'on a une compétition injuste avec le public.
Non, c'était un peu.
C'est gras.
Poussé fort sur le bouchon.
Des candidats à l'immigration, bon, on a quand même décidé qu'il y a 18 000 dossiers, des milliers de personnes, individus, hommes, femmes et familles dans certains cas qui devront passer à autre chose. Québec a décidé de laisser tomber 18 000 demandes d'immigration qui étaient en attente, il faut dire, depuis longtemps.
Bien, il y en avait depuis 2004, mais je veux juste revenir sur le contexte parce qu'il évolue encore ce matin. Hier, le ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette, a déposé son projet de loi qui était un engagement électoral sur la réforme du système d'immigration. Dans son projet de loi, il y a trois éléments importants. D'abord, il y a l'arrimage entre les intentions d'immigration puis les besoins de main-d'œuvre. On dit, plutôt que de recevoir tous les dossiers d'immigration, on va recevoir des intentions d'immigration. On va regarder quelles sont les qualifications de ces travailleurs-là, essayer de leur faire une offre de travail puis d'arriver au Québec, dans les régions notamment, pour combler les besoins de main-d'œuvre. Ça va. Du côté, le deuxième élément, c'est le test d'admission. Puis c'est là que ça évolue. Le test d'admission, hein, qui était sur les valeurs et la connaissance du français que le gouvernement voulait mettre en place, il était dans son projet de loi hier. Dès ce matin, le gouvernement fédéral a fermé la porte. Il a dit non, le Québec, nous, on trouve pas légitime que vous ayez votre propre test puis que vous évaluiez les compétences en français puis la connaissance du contexte puis des valeurs québécoises pour les candidats en immigration. Ça, c'est une claque d'en face du fédéral au provincial. Puis on verra comment ça évoluera. Mais déjà, le ministre Jolin Barrette était sur toutes les tribunes ce matin pour dire non, nous, on considère comme gouvernement du Québec qu'on a le droit de le faire. On l'a fait dans le passé. Le gouvernement fédéral fait faire son propre test aux candidats à l'immigration. Pourquoi est-ce que le Québec pourrait pas avoir un test qui lui est propre, considérant que c'est une province particulière?
Test qu'ils ont déjà fait.
Test qu'ils ont déjà fait. Une autre saveur,
mais quand même.
Exactement. Et donc, là, on va voir comment va évoluer le bras de fer, mais je pense que là, on vient d'avoir une autre confrontation qui va teinter les prochains mois et même l'élection fédérale qui s'en vient.
Ajoute à ça les 18 000 dossiers d'immigration arriérés qui dataient quand même pas mal, qu'on a décidé de tasser tout simplement. Ça nous aurait pris 3 ans, dit-on, rattraper tout
ouais,
ça.
Oui, ça, je trouve ça un peu étrange quand même de simplement rejeter ces 18 000 demandes-là, alors que c'est des travailleurs, je répète, des travailleurs qualifiés qui ont fait une demande à partir de leur pays en très grande majorité. Le secteur des affaires, là, les employeurs attendent des ressources en main-d'œuvre dès maintenant. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de retravailler ces demandes-là, de recontacter ces gens-là pour en savoir un peu plus, puis trouver une façon de les traiter en fast-track ou différemment, un espèce de système de transition? Parce que là, on va avoir quand même quelques mois devant nous pour que Simon-Jolin Barrette puisse faire adopter son projet de loi, mettre en place son nouveau système. Entre-temps, y a-t-il moyen de passer 600 demandes par mois que le ministère est capable de traiter? Probablement qu'on aurait pu accélérer la cadence ou trouver une façon au moins de préserver ces 18 000 personnes qui ont signifié un intérêt à venir ici et qui, selon toute vraisemblance, ont des compétences.
Étaient qualifiés. Isabelle Fontaine, merci beaucoup.
Merci à toi.
On se parle la semaine prochaine.